Il dit au niveau du vécu quotidien, les gens ne pensent pas à leur mort. Alors, il faut laisser du temps pour la famille, il faut laisser du temps pour tout ce qu'il faut, d'accord? Mais il faut un temps important d'études. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font Shabbat? Ils mangent, ils dorment, ils prient, ils mangent, ils dorment, ils prient, et terminé, finito. Écrire un truc pareil en 10 ans, d'accord? Ça veut dire qu'il ne dormait pas, le type. Je sais pas comment il faisait, d'accord? Mais il est jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Une œuvre terriblement grande. Ce jour dédié pour la Refouat Shlemah de David Shimon Ben Avraham Bezrat Hashem. Alors la question de Moshe.
Je voudrais savoir dans la vie comment on pourrait concilier Parnassa et Torah.
Comment concilier dans la vie la Parnassa? La Parnassa, c'est le gagne-pain. Et la Torah, l'étude de Torah. Donc il y a ici deux concepts qui se télescopent. Il y a la nécessité de gagner sa vie. On ne peut pas vivre d'eau et d'amour et d'eau fraîche. Et lui ordonner d'étudier la Torah sans cesse. Comme on dit dans le Kriyat Shema, en te couchant, en te levant, sur le chemin, dans ta maison, etc. Et il est écrit dans le Talmud que Dieu est prêt à pardonner l'adultère, très grave, Avodah Zara, encore plus grave, et l'assassinat, mais pas Bitul Torah. Quelqu'un peut étudier et il perd son temps. La barre est très haute. Donc, tu poses la question, comment je vais gérer ma vie, combien de temps mettre pour le gagne-pain et combien de temps mettre pour la Torah. Le vrai problème est que nous sommes extrêmement influencés par la culture non-juive. D'accord, un non-juif en hébreu, ça se dit goy. Goy signifie un peuple. D'accord, mais à la base du mot goy, ça signifie un corps. Comme en hébreu moderne, gvia, c'est le même mot avec un hé à la fin, signifie un corps. D'accord, c'est le corps. Alors, le goy moyen, il pense au bien de son corps, la jouissance et le plaisir de ce monde, la sécurité, un bon travail, une belle femme, une bonne maison, des belles vacances, une belle voiture. S'il est un peu plus élevé dans le niveau, un beau concert, un beau tableau, d'accord, des belles statues, un beau paysage. Encore plus, alors un beau livre, un peu de la belle philosophie. Bon, ça s'arrête ici. Et nous sommes influencés par cela. Et pour beaucoup de juifs, même orthodoxes, ils se voient comme dans un target, d'accord. Même des gens qui tuent la Torah, des avrechim, d'accord. Target, avoir un pavillon avec une voiture, une grande voiture, machin, etc. Et c'est tout à fait non-juif. La Torah, elle dit, tu mets l'essentiel dans les choses essentielles. L'essentiel, c'est toi. Et toi, c'est pas ton corps, tu as un corps, tu n'es pas un corps. L'essentiel, c'est toi, ça veut dire ton âme. Un beau jour, nous tous, on enlève notre corps, il sera enterré sous terre, et on continue à vivre avec notre âme pour l'éternité. C'est complètement ridicule d'investir dans le corps qui va vivre, allez, 120 ans à tout casser, par rapport à une âme qui est éternelle. Alors, je ne dis pas qu'il faut se tuer, bien que, écrit dans le Talmud, traité Talmud, page 32, que Alexandre le Grand est venu en Israël, a voulu rencontrer les sages du Negev. Les grands sages d'Israël, c'était dans le sud du pays, à l'époque. Il y avait 10 questions. Le Talmud raconte les questions et les réponses des sages d'Israël. Première question a été, « Ma yase adam veichye »« Que faire l'homme pour vivre ?» C'est la question des questions, la question existentielle. Pourquoi je vis? Comment faire pour réussir ma vie, me réaliser vraiment? La réponse des sages d'Israël, vous la connaissez? Il y a Mit et Tassement qui se tuent. Bon, il y a beaucoup d'explications à cela. D'abord, que la pensée de la mort, elle est extrêmement vivifiante. Les gens n'aiment pas qu'on parle de la mort. Même à qui on dit, c'est bien déjà d'acheter une tombe quand on est vivant, ça rallonge la vie. D'accord? On dit, ah, la histoire ne parle pas de choses pareilles. Mon cher ami, mais c'est la réalité. Tu es arrivé comme tout le monde, hein. Ton corps n'est pas éternel. Au contraire, c'est extrêmement bien d'y penser. Le roi Salomon, il a dit, c'est mieux d'aller à une maison de deuil qu'à un mariage. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans une maison de deuil? Les gens sont en train de pleurer, c'est triste, quelqu'un proche, il est disparu. Ça remet les pendules à l'heure. Parce qu'on a l'impression, comme ça dit le Zohar, que la personne pense qu'elle vivra éternellement. est-ce que tu as un type sensé à qui tu poses la question? Si tu vas vivre éternellement, il dit, mais jamais la vie, je sais bien que je vais mourir. Alors comment le Zohar dit une chose pareille? Il dit, au niveau du vécu quotidien, les gens ne pensent pas à leur mort. La majorité des gens ne pensent pas à leur mort. Alors qu'il n'y a rien de plus vivifiant. Quand j'étais jeune, il y avait un chanteur français, je crois que c'est Michel Fugain. Alors, il chantait, chante la vie comme si tu devais mourir demain. Bon, ça c'est le type qui n'a pas beaucoup de cervelle dans son crâne. On lui dit qu'il doit mourir demain, il a encore 24 heures à vivre, qu'est-ce qu'il arrive? Il se met à chanter. Bon, ok, très bien, c'est mieux que de pleurer. Mais à nous, si on disait maintenant, j'ai plus que 24 heures à vivre, on va essayer de profiter, d'investir au maximum possible les dernières 24 heures qui me restent. Tshuva, Torah, prière, totale. Mon cher ami, il n'y a aucune différence entre 24 heures, les dernières 24 heures, et les 24 dernières années, ou les 50 dernières années. Le compte à rebours, il est là chaque seconde. Elle passe, ne reviendra pas, tu te rapproches du jour de ta mort. Quand quelqu'un pense à ça, c'est extrêmement vivifiant. Ça veut dire que je ne dois pas perdre mon temps. Je ne dois pas perdre mon temps. Il y a des gens qui vont tuer le temps. Le temps, il ne sera jamais mort. Le temps, il passe. C'est toi qui es en train de mourir chaque seconde. Donc, quand on pense à la mort, on comprend qu'on n'a pas de temps à perdre et qu'on doit réaliser chaque seconde de son temps. Réaliser dans quoi? Dans le corps, oui. Ce qui est nécessaire, pas plus. De quoi pas mourir de faim, de quoi pas mourir de froid, de quoi, voilà, le minimum, strict minimum pour vivre. Mais vivre de façon minimale. L'essentiel, toi, qui es éternel. Chaque mitzvah que tu fais, tu prends en toi de la divinité, de l'éternité. Et tu la Torah de Dieu. Faire tshuva sur le passé, etc. C'est énorme. Et évidemment, peu de gens vivent ainsi. Je crois même presque personne, d'accord, par les grands, grands tzadikim. Chacun dans le pourcentage. Un qui va mettre quand même 10% qu'il aurait pu ne pas investir dans le corps, il va quand même le mettre, d'accord. Et il y en a 200%, d'accord. Même en étant religieux, il fera ses prières, il va dire extra, mais pour lui, argent, 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 argent. Et c'est ça le lavage de cerveau que subit le monde entier. Donc il faut d'abord savoir où est l'essentiel. Si on sait où c'est l'essentiel, et on agit en fonction, déjà, du point de vue de Dieu, on est OK. Pourquoi? Parce que si je dois aller travailler pour survivre, c'est normal, Dieu ne peut pas exiger de moi-même, comme j'ai dit auparavant, vie d'amour et d'eau fraîche, tout ira bien. Donc c'est normal qu'on ait travaillé, mais le reste du temps, on doit étudier. Alors il faut laisser du temps pour la famille, il faut laisser du temps pour tout ce qu'il faut, d'accord? Mais il faut un temps important d'études. Quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup, Shabbat, eh ben ça il faut étudier, d'accord? Énormément. Alors Benson disait à ses élèves, Shabbat, minimum 7 heures d'études. Essayez, moi j'arrive pas. D'accord? C'est énorme 7 heures d'études. Parce que Shabbat, on fait un bon repas, après on dort bien, après on va prier, après on fait un bon repas et après on dort bien. Si on est vraiment, on se lève un peu plus tôt pour étudier un peu, après la prière, après un bon repas et Shabbat est terminé. Vous connaissez l'histoire du Magid de Douvna. Magid de Douvna, il était contemporain du Gaon de Vilna, il faisait du moussard. Ah, il donne beaucoup d'exemples. Ah, il raconte qu'un type, il habitait dans une ville. Tout d'un coup, lui, à l'origine, venait d'une autre ville qu'il a quittée il y a 20-30 ans. Puis un beau jour, un type de l'autre ville arrive dans sa ville. Ah, t'es de ma ville, viens, je t'invite Shabbat, tu me raconteras un peu comment ça se passe là-bas, etc. J'ai envie d'entendre un peu des nouvelles de tous les gens que je connais de ma ville d'antan. C'est pas comme aujourd'hui où il y a les Facebook et WhatsApp, d'accord? Ok, le type tout content qu'il a ou passé Shabbat. Alors, bon, dans la synagogue, il revient, il y a un bon repas. Et tu peux dire, comment ça me raconter? Bon, écoute, je suis un peu fatigué, bien, j'ai bien mangé, demain je te raconte, d'accord? Ils vont dormir. Après, le lendemain, ils se lèvent, ils reviennent pour le repas, là aussi le type il est fatigué, ok, après ils vont dormir, après ils vont à la prière, bien sûr, et là aussi le type est à moitié endormi, il est en train de manger, tout ça, et pour finir, le Shabbat est terminé. Et il n'a pas pu savoir rien de la ville d'où il vient. Ça, c'est l'exemple. Le sujet de l'exemple, notre Neshama, qui vient de chez Hachem. Elle vient de dessous du trône d'Hachem. Elle vient dans ce bas monde nul, d'accord, de tels des milliards d'années-lumière. Vous avez déjà vu un petit enfant? C'est phénoménal, hein, un bébé qui est né les premières semaines. Il regarde comme ça, il n'arrive pas à comprendre où il est arrivé. C'est quoi ce monde de malade, d'accord? Même son corps, il ne connaît pas. Après l'âge de 2-3 mois, beaucoup d'enfants, ils voient leurs mains, ils ne savent pas que c'est eux. ils se griffent, ils n'ont pas compris que c'est eux. Au moment où ils commencent à comprendre que quand ils veulent tourner, ça tourne. C'est complètement baba. Tiens, et ils commencent à comprendre qu'ils ont un corps. Nous, la majorité des êtres humains croient que c'est eux le corps. C'est complètement fou, d'accord. On a un corps. Mais ça prend du temps à comprendre cela. Il a un chemin vient de très très haut, et là ça lui prend tellement de temps. Un animal, regardez, dès qu'il est né, il se lève, tout ça, terminé. Il n'y a ni école, ni rien du tout. L'enfant, il faut l'apprendre à marcher. L'enfant, qu'est-ce qu'il ne faut pas pour qu'il soit un type normal, d'accord? Parce que notre Neshama vient d'un autre monde. Et ce monde n'est pas le monde qui est adapté à la Neshama. On est venu ici pour une certaine mission. Alors de même, notre Neshama vient de loin. Shabbat, c'est le moment où on peut étudier la Torah et se rebrancher à notre source, à notre ville d'où on est venu. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font Shabbat? Ils mangent, ils dorment, ils prient, ils mangent, ils dorment, ils prient, et terminé, finito. On n'a rien appris, on n'a rien pris de notre ville d'antan, de dessous le trône d'Hachem. Alors je dis, chez quelqu'un maintenant, il doit travailler pour arriver au nécessaire pour survivre, d'accord? Ok, mais Shabbat, on ne travaille pas, étudie. Les gens à l'étranger, dimanche, le jour du Seigneur, d'accord? De leur Seigneur, d'accord? Mais profite-en pour étudier. Non, on va faire un petit tour avec les enfants, avec la femme, on sort en pique-nique. Mais je ne comprends pas. Ici en Israël, c'est un jour de travail normal. Et pour les gens qui étudient, c'est un jour d'études normal. D'accord? 10 heures d'études minimum. Tu peux, dimanche. Où est le problème? D'accord? Tu te lèves tôt, tu pries tôt, après tu commences de 8 heures à 8 heures, tu étudies. Où est le problème? D'accord? C'est ça qui est le plus important. Maintenant, il y a une unité de commando. Le peuple d'Israël, c'est comme une armée. D'accord? À l'armée, tu as des cuistots, tu as des secrétaires. Pour chaque soldat combattant en Israël, tu as 15 soldats qui ne sont pas combattants. Combattants, c'est l'élite maintenant. Même dans l'élite, tu as la super élite. D'accord? Combien ils sont en super élite? Très peu. Très très peu. Dans le peuple d'Israël aussi. Pas au niveau militaire, au niveau de la vraie réalité du combat que nous avons. D'éternité du peuple d'Israël. Il y a beaucoup de forces de mal qui veulent notre fin. Ils sont incarnés dans les ennemis d'Israël. Il n'en manque pas. De tout temps, comme on dit le soir du Seder, à chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Ça n'arrête jamais. C'est phénoménal. Chaque génération. Regarde aujourd'hui l'Iran. On est à 2000 km de l'Iran. C'est quoi 2000 km? C'est presque, je crois, comme Paris à la Grèce. D'accord? Mais où le rapport? Il n'y a aucun rapport. C'est très, très éloigné. À l'époque, il avait dit, Ahmadinejad, le président de l'Iran, il avait dit, la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. Mission numéro 1. Et quoi avec l'éducation? Et quoi avec l'économie? Et quoi avec... Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'autre priorité que la fin d'Israël. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Si encore on lui piquait du pétrole, on lui piquait quelque chose, on voulait une bombe atomique sur la tête, je comprends. Mais rien, rien. Laisse-nous... Écoute, vis là-bas, laisse-nous tranquille, terminé. Et chaque génération, c'est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui incarnent le mal et nous on incarne la divinité. C'est pour ça que nous on va rester, eux pas, d'accord? Mais c'est un combat. Ce combat, ce n'est pas un combat d'armes physiques. Le roi David, quand il part contre Goliath, il se bat, il va contre un tank, un géant qui a une armure énorme. Et il lui dit, toi tu viens avec ton armure, ton épée, ton javelot, moi je vais au nom du Dieu que tu as blasphémé. Et il le tue avec une pierre qui miraculeusement traverse l'armure et le tue. Ça c'est Am Israël. On est un miracle ambulant. Miracle, c'est quelqu'un qui veut savoir si Dieu existe, regarde le peuple d'Israël, tu comprends que Dieu existe. C'est complètement anormal. Mais ça ne va pas comme ça. D'abord, on souffre, et cette guerre dépend d'une seule chose. Combien le peuple d'Israël fait de mitzvot, notamment études de Torah. Tu n'as aucune mitzvot qui a autant de valeur que l'étude de Torah. Donc, dans le peuple d'Israël, tu as une unité de commando qui s'appelle l'Avrechim, étudiants de Torah, qui vouent leur vie à l'étude de Torah, et qui vivent anormalement. C'est leur femme qui va travailler. Leurs femmes sont des tzadkaniotes les plus grands de tous les temps, qui ont 10 métiers. Elles sont femmes, elles sont mères, elles ont un métier pour la par l'instant à la maison, elles s'occupent du ménage à la maison, elles font 10 trucs à la fois. Tout ça parce que leur but, c'est avoir un mari qui étudie. Moi, Dieu m'a béni, j'ai un garçon et 7 filles. Si je marie toutes mes filles, si une fille avait eu un mari qui n'est pas quelqu'un qui étudie sérieusement jour et nuit, elle aurait fait une dépression, elle aurait sauté par la fenêtre. C'est leur but. Comme ça, ils ont formaté, c'est dans mon orthodoxe, on les formate comme ça. Ah, le but le plus grand qu'on peut avoir, avoir un mari Tamil Chacham. Et si elle n'aurait pas eu cela, elle se serait suicidée. Terrible. Ça aurait été terrible. Donc il y a des femmes qui veulent cela. et qui font partie des grands, des commandos du peuple d'Israël. Et leurs maris sont les commandos du peuple d'Israël. Ces gens-là, comment ils font? Alors, comme a dit le Rav Shteyman, ils sont les mangeurs de manne. Lorsque Dieu a amené la manne au peuple d'Israël, il a dit, c'est écrit dans la Torah, il a dit à Moshe, tu prends une petite tzinselet, un petit pot de manne, et tu le mets dans le sein des saints. Pour que les générations à venir sachent comment le peuple d'Israël a vécu 40 ans dans le désert, de quoi on va vivre. Tu as 600 000 personnes mâles de 20 à 60 ans, plus encore les enfants, les bébés, etc. Les femmes, ça fait 3 millions. Comment un peuple de 3 millions de personnes survit 40 ans dans le désert? Le désert, c'est le désert, il n'y a rien. Il n'y a pas d'hélicoptère qui vient se donner à manger avec un pont aérien, d'accord? Dieu dit, pas de problème. Un rocher pour de l'eau et la manne qui tombe tous les jours. Le goût que tu veux, il y a ça. Le goût que tu veux, tu le goûtes dans la manne. Pour que les générations prochaines le sachent, mon cher Abenou a pris un petit pot et a laissé dans le sein des saints. Combien de temps plus tard? Plus de 800 ans plus tard, le prophète Jérémie prend le pot de manne et va voir les Juifs. Regardez, c'est la manne qu'ont mangé vos ancêtres dans le désert. Arrêtez de dire qu'on n'a pas le temps d'étudier, qu'on va s'occuper maintenant de nos champs, etc., travailler. Regardez comment Dieu il a un problème de vous nourrir. Alors, Shemman a dit, l'Avrechim aujourd'hui, étudiant le Torah, ce sont des mangeurs de manne. Ils vivent miraculeusement. Et c'est comme ça. Je ne dis pas qu'ils sont riches. Oui, ils sont riches, comme dit Rabbi Meir. C'est quoi quelqu'un qui est riche? Celui qui est heureux de ce qu'il a. Ils ont une richesse intérieure, ils ont une qualité de vie extraordinaire. Mais ils n'ont pas forcément une BMW, un appartement en Espagne, une villa en Espagne, d'accord? Ils vivent chichement. Mais une réalité de proximité de Dieu, une qualité de vie extraordinaire. Alors comment ils font? C'est dur. Mais tous vivent un miracle. Comment ces familles qui n'ont pas deux ou trois enfants, ils en ont en moyenne, ici en Israël, 7,2 enfants, d'accord? Comment ils font pour les marier? Pour marier en Israël, il faut allonger. Il faut allonger, d'accord? C'est comme ça. Comment ils font? Moi, genre demain, je re-raconte l'histoire que je racontais ici, peut-être bientôt 100 fois. Il y avait Abnei Brak, un avrech, un étudiant Torah, qui fait partie donc des commandos. Il avait 10 enfants, et pas d'argent. Sa fille aînée arrive à l'âge du mariage. On rencontre un garçon, ils se plaisent, ils se fiancent, et au fiançailles, les deux papas discutent ensemble combien tu mets, combien je mets. Le papa du garçon était un monsieur qui avait les moyens, il avait 3 enfants, il travaillait, etc. Et la vraie, qu'il n'avait rien du tout. Alors il dit, écoute, normalement on doit faire moitié-moitié, la moitié de la somme qu'on décide qu'ils ont besoin pour le mariage, l'appartement, etc. Mais moi, j'ai rien. Toi, tu travailles, tu as plein d'argent, alors écoute, sois gentil, paye 3/4, et moi, je paye 1/4. Tu me dis jamais de la vie, moitié-moitié. Je te dis, j'ai pas les moyens. Tant pis, on fait moitié-moitié. Est-ce que tu es prêt qu'on aille voir un grand Torah? Oui, je suis d'accord. Ils sont mis d'accord d'aller voir le Rav Shteyman. Alors, le Rav Shteyman. Et le Rav, écoute, il dit, ok, moitié-moitié. La vraie, il est interloqué. Comment je vais faire? T'as pas compris. Lui, il vit dans la nature. Et la logique des choses dit qu'on fait moitié-moitié. Maintenant, toi, tu vis pas dans la nature. Enfin, de façon naturelle, t'as raison, t'as rien. Mais tu es un mangeur de manne. Tu verras, l'argent tombera du ciel. Et comme ça, ça a été, l'argent est tombé du ciel. Bon, c'est pas qu'un beau jour, il se lève le matin, et presque comme ça, d'accord? On se coule le paillasson, d'accord? Mais il s'arrange, tu vois que les choses avancent. Anormal. Et ça, c'est tout le monde orthodoxe des étudiants Torah qui vit de façon anormale, et ça marche, ça grandit, les appartements, etc. De toute façon, tout à fait. Bien que l'État d'Israël, une partie en tout cas, font tout pour que... parce qu'ils sont pas bêtes, d'accord? Ils ont compris que dans quelques générations, on sera en majorité, ça sera un pays orthodoxe, ils ne peuvent pas accepter une chose pareille. Donc ils font tout pour que ce monde disparaisse, en faisant des décrets économiques spécialement, mais Dieu est là, Baruch HaShem, extraordinaire ce qu'il fait. Ah, c'est fantastique, d'accord, on voit la main de Dieu sans cesse. Donc, ça c'est la réponse, la deuxième partie de la réponse. Les gens, on va dire, qui ne veulent pas faire partie des commandos, alors ils doivent savoir que l'essentiel de leur vie, c'est l'étude de Torah et les mitzvot, et le travail, il est accessoire. Ils auront la bénédiction, et le reste du temps, ils vont mettre dans l'essentiel qui est la construction de leur âme. Ceux qui veulent rentrer dans l'unité des commandos, bienvenue. Et là, c'est comme écrit Maïmonide. D'accord? Maïmonide, que même les grands non-religieux considèrent comme étant une très grande figure humaine, d'accord? Il écrit à la fin des Ilchot Shemitah ve'Asor, les lois concernant la Shemitah. Il dit comme ça. Il y avait 13 tribus dans le peuple d'Israël. On dirait qu'il y en a 12, mais une a été partagée entre Yosef, c'est Menaché et Ephraim. Donc il y avait 13 tribus. Lorsque Yoshua est venu en Israël, il a partagé la terre en 12 tribus. Il y a une tribu qui n'a pas droit à la terre, c'est la tribu de Lévi. Parce que la tribu de Lévi, elle est consacrée au service divin, au temple, etc. Ils étaient des Kohanim, ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de paix. Alors de quoi ils vivent? Le peuple d'Israël leur donne 10%. Et le Rambam continue, dit non seulement la tribu de Lévi, mais chaque être humain au monde, donc même pas un juif, qui a décidé d'enlever de sa nuque le joug des calculs nombreux que demandent les gens. Comment je vais faire? Comment tu vas vivre? Comment tu vas faire? Tatati, tatata, tous les deux gens autour te diront, mais ça va pas, etc. D'accord? Comment tu vas faire? Il a pris ce joug, il l'a jeté. Il a été droit comme la, je vous dis, traduction du mot du Rambam, il a été droit comme l'a créé le Créateur. Il s'est sanctifié ainsi, devenant saint des saints. Kodesh Kodashim. Et lui, il donnera tout ce qu'il a besoin, comme la tribu de Lévi. Ça, c'est une invitation à venir dans l'unité des commandos. Oui.
Juste, on voit bien que même Rambam lui-même, il travaillait pour...
Le Rambam travaillait parce qu'il n'avait pas le choix. Il était médecin. S'il n'avait pas soigné la famille, il raconte son histoire qu'il ne partait pas tôt le matin, il repartait en fin d'après-midi exténué. Il y avait déjà une quarantaine de personnes qui l'attendaient, des juifs, pour se faire soigner. Mais il dit, je vais là-bas, sinon je me fais couper la tête. D'accord, le médecin, le sultan voulait qu'il soit à son service. Il ne pouvait pas faire autrement. Mais il ne va pas aller contre ce qu'il a écrit lui-même. S'il a le choix, il l'aurait fait. Avant d'être le médecin du sultan, il était le Rambam. Tu comprends? Pour écrire le Rambam. Le Rambam, il a écrit entre 18 ans et 28 ans. L'œuvre de Maïmonide, ce qu'a fait Maïmonide, ce n'est pas le guide des égarés. Ça, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué dans le peuple d'Israël, ce livre-là. D'accord? Mais ce qui a fait que Maïmonide, la grande personne connue au monde, parce que dans le peuple juif, elle est connue, et c'est le plus grand possèque, le plus grand décisionnaire de tous les temps, c'est son œuvre Mishneh Torah. Ça, il a écrit en l'âge de 18 ans et 28 ans. Écrire un truc pareil en 10 ans, d'accord, ça veut dire qu'il ne dormait pas, le type. Je ne sais pas comment il faisait, d'accord, mais il est jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Une œuvre terriblement grande. Voilà, donc il a réalisé cela. Après, bon, les affres de la vie ont fait qu'il a dû être le médecin, il a dû fuir l'Espagne, arriver en Égypte, etc. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.